Et on commence ce journal des sciences avec une nouvelle surprise liée à l'homme de Denisova. Hier, dans la revue Science Advance, la morphologie de sa phalange est plus proche de l'homme moderne que de Néandertal.
C'est la première fois qu'on a une étude qui croise des données génétiques et des données morphologiques de l'homme de Denisova. Pour rappel, on ne sait pas grand-chose de lui. On a découvert cette troisième espèce du genre Homo en 2010, en Sibérie, dans les grottes de Denisova, grâce à l'analyse ADN d'une minuscule phalange vieille de 41 000 années. Depuis, on a trouvé quelques dents et une mandibule. Les archives paléanthropologiques sont très pauvres. Et dans cette étude, la phalange a été complétée et étudiée dans son intégralité. Son ADN étant proche de celui de l'homme de Néandertal, les paléanthropologues s'attendaient à trouver des similitudes morphologiques. Surprise, les mains de l'homme de Denisova sont proches, plus proches de celles de l'Homo sapiens. Moins épaisse, plus fine, plus moderne. C'est d'autant plus surprenant que la mâchoire présente, elle, des caractéristiques plus archaïques. Isabelle Crèvecoeur est paléanthropologue au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux. Elle a participé à cette étude.
Une certitude qu'au niveau génétique, ils sont plus proches de leur ancêtre commun et plus proches que le nôtre, que celui que nous partageons avec Denisova et avec Néandertal. Donc ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça montre juste qu'on a une adaptation du squelette infracrânien à certains types d'environnement, d'activité, etc., qui va se marquer sur les néandertaliens et qui va les différencier, si vous voulez, au niveau, en tout cas, des ossements des mains, de cette population. C'est-à-dire que même s'ils ont un ADN plus proche, ils vont présenter des caractéristiques morphologiques différentes. Et donc ça, c'est juste la toute petite fenêtre de cette phalange qui nous permet de dire ça, et donc qui ouvre la voie à la difficulté peut-être d'identifier sur le terrain ou de distinguer sur le terrain des restes néandertaliens et des restes dénisoviens, puisqu'on peut imaginer une mosaïque morphologique qui n'est pas similaire à celle des néandertaliens.
On passe au bref du jour. Une équipe internationale a fait la découverte d'un nouveau type d'onde électromagnétique, l'onde de surface Diakonos-Voigt.
Cette équipe a fait cette découverte en analysant l'interaction de la lumière avec certains cristaux naturels ou artificiels et en s'appuyant sur les modèles d'équations de Maxwell. L'onde ne se déplace que dans une seule direction et décroît à mesure qu'elle s'éloigne de l'interface. Ces propriétés uniques sont décrites dans la revue Proceeding of the Royal Society. Dans notre compréhension de la lumière et de son interaction avec des matériaux complexes, c'est un pas en avant. C'est aussi l'espoir de nouveaux progrès technologiques, notamment pour le développement de circuits à fibre optique plus efficaces.
Lundi, un satellite d'observation de l'ESA, l'agence spatiale européenne, a frôlé le crash avec l'un des satellites Starlink de SpaceX.
En urgence, l'ESA a fait une manœuvre d'évitement. C'est la première fois que l'agence spatiale européenne modifie la trajectoire d'un de ses satellites pour lui éviter un impact avec un autre. SpaceX, la société d'Elon Musk, a reconnu hier avoir eu un bug de communication. Avec en plus son projet d'envoyer 12 000 satellites, la gestion d'un trafic spatial saturé interroge les astronautes.
Et grâce à une étude parue mardi dans la revue eLife, on comprend enfin pourquoi les oies à tête barrée peuvent voler jusqu'au sommet de l'Everest.
Ces oiseaux volent à 9 km au-dessus de la Terre, à une altitude où le niveau d'oxygène est divisé par 2, voire par 3, par rapport au niveau de la mer. Comment maintiennent-ils le vol dans des conditions hypoxiques ? Les physiologistes et les astronautes de la NASA viennent d'éclairer ce grand mystère biologique. Ils ont entraîné des oies à voler dans une soufflerie en portant des capteurs physiologiques et des masques qui simulent différentes teneurs en oxygène. On observe que lorsque l'oxygène se raréfie, le métabolisme de l'oiseau ralentit, sa fréquence cardiaque diminue et son sang se refroidit. Sous des températures froides, l'hémoglobine lie l'oxygène plus étroitement. Cela veut dire que simultanément, le sang transporte plus d'oxygène et que les oiseaux brûlent moins de calories.
Thank you.